Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 103, Daf Kuf Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Ben Omed, Ben Yoshev, Ben Mouté. L'homme à qui elle fait la khalitsa peut être debout, assis ou accoudé. Vechonetset Minasuma, et celle qui a fait la khalitsa à une personne aveugle, khalitsa takshera. Dans tous ces cas-là, la khalitsa est valable. Aval, de minara nifram, she'en chofet rovaregel. Mais cependant, si la khalitsa a été faite avec une chaussure usée qui ne couvre pas la majorité du pied, ben sandala nifrat, she'en mekabelet rovaregel. Ou bien avec une sandale usée qui ne reçoit pas la majorité du pied. Ou bismichat ayadaim. Les smichat ayadaim sont les appuis des mains. Celui qui ne peut pas marcher avec ses pieds et s'appuie sur ses mains, il met des gants de cuir à ses mains. Et donc, si pour la khalitsa, elle lui a ôté ces gants-là. Ou bien plia shel beged, ou bien lui a ôté ses pantoufles en tissu, vecholetset minakatan, et celle qui a fait la khalitsa à un enfant, khalitsa tapsula, la khalitsa n'est pas valable. Donc on voit clairement dans cette braïta qu'il y a une différence entre la pantoufle en cuir et celle en tissu. Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Ayomi du Daf Kuf Bet. Maintenant on commence Bezat Hashem, le cours du Daf Ayomi du Daf Kuf Gimel. Demande la Gemara sur la braïta qu'on vient de voir. Kava kite amani Rabbi Meiri, quel est le tana qui rend valable la khalitsa avec la jambe de bois de l'unijambiste, n'est-ce pas que c'est Rabbi Meir de Tnan, comme on l'a vu dans la Mishnah dans la Masechet Shabbat, Hakite Ayotse Bekaf Shelo, divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi Oser, le jour du Shabbat où le transport d'objets est interdit dans les endroits publics, l'unijambiste pourra sortir avec sa jambe de bois. Ce n'est pas considéré comme un transport d'objets, ceci est sa chaussure. Telle est l'opinion de Rabbi Meir, tandis que Rabbi aussi l'interdit. Donc si c'est Rabbi Meir qui a considéré la jambe de bois comme une chaussure, c'est lui qui rend la Khalitsa avec cette jambe de bois valable. Tandis que la suite de la Baïta, qui interdit la Khalitsa avec la pantoufle en tissu, suit l'opinion de Rabbanan. Pourquoi Rabbanan interdise la pantoufle en tissu? Forcément à cause du verset « Ven alert arrache », duquel on a appris que la chaussure doit être en cuir. Et c'est pour cela que d'après eux, la jambe de bois n'est pas valable pour la Khalitsa. Elle n'est pas en cuir. Donc on ne comprend pas qui est l'auteur de la Baïta. Le début de la Baïta qui a permis la Khalitsa avec la jambe de bois suit l'opinion de Rabbi Meir, tandis que la fin de la Baïta qui a interdit la khalitsa avec la pantoufle en tissu, suit l'opinion de Rabbanan, et non pas celle de Rabbi Meir. Et donc, nous dit la Gemara, Ban Padia Shel Beged Atan, le Rabbanan, l'interdit de faire la khalitsa avec la pantoufle en tissu, suit l'opinion de Rabbanan. Amar Abaye, répond Abaye, Mi de Sefer Rabbanan, Rechamami Rabbanan. Compte tenu que la fin de la Mishnah, c'est Rabbanan et non pas Rabbi Meir, il faudra dire que le début de la Mishnah suit aussi l'opinion de Rabbanan. Verechab Imchupeor. Et au début de la Mishnah, quand il est question de la jambe de bois, il s'agit d'une jambe de bois recouverte de cuir. Donc elle est en cuir et elle est valable même d'après Rabbanan. Amar le Rava, lui a objecté à cela Rava, aval en mechoupé or maï pasoul. Donc en suivant ta réponse, il est déductif que si la jambe de bois n'est pas recouverte de cuir, elle n'est pas valable à la khalissa. Yachi ajoutanisefa ban pidiach al beged. Si il en est ainsi, pourquoi la fin de la braïta qui nous mentionne des cas où la khalissa n'est pas valable nous mentionne d'autres cas, comme par exemple la pantoufle en tissu, l'iflok bedide, elle aurait dû faire la différence dans le cas présent. Bamed verrem amourim bemchoupé or, aval en mechoupé or pasoul. Et voici ce qu'elle aurait dû dire. Quand est-ce que la khalitsa est valable avec la jambe de bois? Que si elle est recouverte de cuir. Mais sinon, la khalitsa n'est pas valable. Et là, ma Rava. Alors Rava nous donne une nouvelle réponse. Mi de Recha Rabbi Meir, c'est pas Nami Rabbi Meir. De même que le début de la braïta suit l'opinion de Rabbi Meir, pareil, la fin de la braïta suit aussi l'opinion de Rabbi Meir. Hay megin ve hay lo megin. Pour que la chaussure soit valable à la khalitsa, elle doit pouvoir protéger le pied. Et la pantoufle en tissu ne protège pas le pied. Donc en effet, d'après Rabbi Meir, le cuir n'a pas d'importance, mais la protection en a oui. Et toute chaussure qui protège, même si elle n'est pas en cuir, elle est valable à la khalitsa, mais la chaussure qui ne protège pas, comme la pantoufle en tissu, ne l'est pas. Amar Amemar, nous dit Amemar, Hayman de khalit tsarich le mitresse le karé. L'homme à qui est fait la khalitsa doit appuyer son pied contre le parterre. Nous explique la raison le Nimuke Yosef. Comme ça, s'il a une pointure un petit peu trop grande, elle est quand même bien bloquée par le parterre, et c'est elle qui le déchausse. Amarle Ravashi la Memar a demandé Ravashi à Memar, Vatania ben Omed ben Yoshev ben Mouté. On a vu dans la braïta précédente qu'il n'y a pas d'importance dans quelle position se trouve l'homme. Il peut être debout, assis ou accoudé. Répond la Gemara, Ema ou l'âme de Dachis le carré. En effet, sa position n'a pas d'importance, mais dans n'importe quelle position qu'il a adoptée, il va devoir pousser son pied contre le parterre. Ve'amar Amemar. Et encore, on nous dit Amemar. Hayman de Maski, al-Lichta de carré, lo khalit. celui qui a son pied à l'envers. La plante des pieds se trouve en haut et la partie supérieure en bas. Donc je traduis la Gemara mot à mot. Haïman de Maski, celui qui marche, celui qui avance. Al Lichta de Karé, sur les flancs de ses pieds. Lo Khalitz, il n'est pas apte à la Khalitza. Amarle Ravashi la Memar, a demandé Ravashi la Memar. Vatania Smuchat Raglaïm, on a vu dans la Vraïta précédente que celui qui a ses pieds tordus et marche avec des béquilles à ses mains, en s'aidant avec ses pieds soutenus dans des morceaux de bois ou de cuir. Et si on lui a fait la Khalitza en lui ôtant ses bouts de bois ou de cuir, la Khalitza est valable. My love de Khalitz Bayou. N'est-ce pas qu'on a déchaussé ces bouts de bois ou de cuir à celui qui a les pieds tordus? Donc pas comme nous l'enseigne Amemar que le pied tordu n'est pas apte à la Khalitza. Répond la Gemara, lo de Yaïv le Nacher de Khalitz. Non, il ne s'agit pas de ce cas-là, mais du cas où les échasses en question ont été données à un homme saint, et c'est à cet homme qu'on a fait la Khalitza de ces échasses. Amar Ravashi, nous dit Ravashi, le maï de Kamar Amemar, la conséquence de ce que nous apprend Amemar, lav baruva Khalitz, ve lav bar kipof Khalitz. Ni Bar Uva n'est apte à la Khalitza, et ni Bar Kipof est apte à la Khalitza. L'histoire de Bar Uva et Bar Kipof est relatée dans la Massachet Moed Katam. Ce sont deux personnes qui ont causé un tort à Ravashi, et ils ont été punis par Hachem de se retrouver avec les pieds tordus. On reprend le passage de la Mishnah. Mina Kvol Mata Vechule. L'unijambiste qui a sa jambe coupée sous le genou est apte à la Khalitza. Urmini, on oppose une baïta à cette Mishnah. Regalim, Brat le Bal et Kabin. La Torah a demandé aux enfants d'Israël de monter au temple trois fois dans l'année, qui sont pendant les jours de fête. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ces fêtes ont été appelées par la Torah Regalim. Regalim a la même racine que Raglaim. Raglaim, ce sont les pieds. Donc celui qui n'a pas de pieds et marche avec des béquilles est dispensé du pèlerinage. Donc on voit de cette braïta que celui à qui il manque le pied, même si ce n'est que sous le genou, n'est plus considéré comme s'il a un pied. Alors pourquoi est-il apte à la Khalitza? Répond la Gemara, Shani Echad Irtiv Me'al Raglo. Ceci est différent à propos de la Khalitza, étant donné que le verset est écrit Me'al Raglo, de sur son pied. En effet, celui qui n'a pas de pied n'en a pas, mais il a la partie qui est sur son pied. Et cela pour la Khalitza est suffisant. Demande la Gemara, Yachi le Malamina Kuvanami. En suivant ce raisonnement, pourquoi si la jambe est coupée au-dessus du genou, il n'est pas apte à la Khalitza? Pourquoi ne pas considérer cette partie comme étant sur le pied? Répond la Gemara, Me'al, velo Me'al de Me'al. L'unijambiste est apte à la Khalitza si ce n'est que son pied qui manque. Mais le membre qui se trouve directement sur son pied est là. Mais s'il n'a que le membre qui se trouve sur le membre qui se trouve sur son pied, donc ce n'est plus Me'al Raglo sur son pied, mais Me'al de Me'al Raglo sur ce qu'il y a sur son pied, dans ce cas-là, il est exclu de la Khalitza. Amara Papa, nous dira Papa, Shmamina Hay Istavira Ad Aranachit. Du raisonnement précédent, il est déductif que la cheville arrive jusqu'au parterre. De Istal Kadatach Mifsak Pasik, car si tu vas penser qu'elle n'arrive pas jusqu'au parterre, et donc elle sépare entre le pied et la jambe, Ravele I ou Me'al, Veshoka Me'al de Me'al. Alors c'est la cheville qui est sur le pied, et la jambe, même sous le genou, qui est déjà sur le sur, sur la cheville qui est sur le pied. Alors comment celui qui a sa jambe coupée sous le genou est apte à la Khalitza? Pourquoi ce n'est pas considéré comme sur? Forcément il faudra dire que la cheville arrive au parterre, et donc elle fait partie du pied, et c'est la jambe qui est directement sur le pied. Amar Ravashi, Ravashi controverse cela en disant, même si tu vas dire que la cheville n'arrive pas par terre, mais elle sépare le pied de la jambe, étant donné qu'elle se trouve avec le pied, elle fait partie intégrale du pied. Et donc la jambe qui se trouve sur la cheville est considérée comme si elle est sur le pied. La Mishnah avait dit, Mina Okuva Ulmana. Si la jambe est coupée au-dessus du genou, la Khalitza n'est plus valable. Meti Rav Kohana, ou Beshiliata Hayotset Mi Ben Raglea. Rav Kohana oppose à cela un verset, jusqu'au nouveau-né sorti d'entre ses pieds. Donc on voit ce verset, que même la partie supérieure de la jambe est appelée par la Torah le pied. Amar Abaye répond à cela Abaye, Beshara Shekorat Lened, Noetet Akavea Biyakotea Violedet. Quand elle sent qu'elle a besoin d'accoucher, pour faciliter l'accouchement, elle enfonce ses talons dans ses jambes. Et donc, en effet, cela paraît que le nouveau-né sort d'entre ses pieds. Tashema vient voir cet autre verset, Lo Asaraglav Velo Asasfamo. Il n'avait point enlevé les poils de ses pieds, ni fait sa moustache. Les poils de ses pieds, cela s'entend, les poils d'entre les jambes. Donc on voit que même la partie supérieure de la jambe est appelée le pied. Répond la Gemara, Lishna Me'alia. En effet, le verset aurait dû employer un autre mot. Ceci n'est pas un mot qui convient. L'entrejambe ne peut pas être appelé pied. Cependant, c'est par euphémisme que le verset a employé ce mot-là. Tashma, viens écouter un autre verset. Bayavo Shaul la Sechet Raglav. Et Shaul entra pour verser de ses pieds. En d'autres termes, pour satisfaire un besoin. Et donc on voit que même le membre génital est appelé le pied. Répond la Gemara, l'Ishna Me'alia. Ce n'est que par euphémisme que ce mot a été employé. Tashma, viens écouter cet autre verset. Ach masich hu aglav bechadar hamekera. Sans doute, il verse de ses pieds dans la chambre d'été. Donc, il se soulage d'un besoin. Donc, on voit que même la cuisse est appelée le pied. Répond la Gemara, la même chose qu'auparavant. L'Ishna Me'alia. Ce mot a été choisi pour employer un langage propre. Demande la Gemara Ben Raglea Vechoulé. Il s'agit de l'histoire relatée dans le livre des juges, Sefer Shoftim, à propos de la guerre entre le roi d'Israël appelé Barak contre un roi appelé Sisra. À un moment donné, Sisra s'est caché dans la maison de Yael. Et Yael l'a endormi pour le tuer. Pour l'endormir, elle l'a séduit et s'est laissé posséder plusieurs fois. Et cela est commenté, comme on le verra par la suite, des mots Ben Raglea, entre ses pieds. Donc on voit que même les cuisses sont appelées pieds. Répond la Gemara comme avant, Lishna Me'alia. Ce mot a été choisi pour employer un langage propre. Amar Rabbi Yochanan, Sheva Beilot, Baal Oto Racha Beoto Ayom. Nous dit Rabbi Yochanan, ce jour-là où Sisra s'est caché dans la maison de Yael, il l'a possédé sept fois. Chez Nehemar, cela est commenté du verset suivant. Ben Raglea Kara Nafal Shachav, Ben Raglea Kara Nafal, Bashar Kara Sham Nafal Shadoud. À ses pieds, il se tord, il s'affaisse, il succombe. À ses pieds, il se tord, il rampe, se débat encore et gît sur place inaminée. Et ces termes-là qui veulent tous dire se coucher d'une façon ou d'une autre sont écrits cette fois. Au début, Kara Nafal Shachav, puis au milieu, Kara Nafal, et à la fin, Kara Sham Nafal. Demande la Gemara Vakamitania Me'avera, comment le verset lui en fait l'éloge de s'être laissé posséder par Sisra pour le fatiguer et le tuer? Elle-même a aussi profité du péché. Répond la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, a répondu Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon, le fils de Yochai, Kol Tovatam Shel Roshaim, Ra'i et Sel Tzadikim. Tout ce qui procure un plaisir au Roshaim est dégoûtant pour le Tzadikim. Le Tzadik répugne le contact du Racha, et donc Yael n'en a tiré aucun plaisir.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On a tourné la page, on écoute Gimel à Moudbet. Chez Nehemar, comme on le voit de ce verset-là, Hachem a dit à Lavan, Ishamer lecha pente d'aber im Yaakov mitov adra. Garde-toi d'interpeller Yaakov en bien ou en mal. Bishlamara le chayay. On pourra comprendre pourquoi Hachem a interdit à Lavan de parler du mal, et la tov à Maïlo. Mais pourquoi lui a-t-il interdit le bien? Et la shmamina tovatam shel rechaim ra'i et tzadikim. Donc, de là on voit que ce qui est bien, ce qui est attirant pour le rachat, est répugnant pour le tzadik. Demande la Gemara. Bishlamatam dilma matkarlesh madavodat kuchavim. Admettons là-bas, à propos de Lavan, on pourra comprendre pourquoi Hachem lui a interdit de parler du bien à Yaakov. Car ce qui est bien pour Lavan est mauvais pour Yaakov. Comme par exemple l'idole qui a disparu de chez Lavan et dont il soupçonnait Yaakov de le lui avoir volé. Et donc, ses propos sont bien pour Lavan. Il cherche son idole, mais sont mauvais pour Yaakov. Et la ha maïra aïka, mais à propos de Yael et de Sisra, quel mal a-t-elle reçu de lui? Répond la Gemara, de kasha diba zuama. Le mal qu'il lui a fait, c'est qu'il l'a souillé. Il l'a mis dans elle une impureté. Dama Rav Yochanan, comme nous le dit Rav Yochanan, de sha'a sheba nachash al chava hitil bazuama. Au moment où le serpent s'est accouplé avec chava, il l'a souillé. Israël shamdu ala sinai paska zuamatan. Les enfants d'Israël qui ont été présents au mont Sinai, leur souillure a cessé. Of dekochavim shelo amdu bar sinai lo paska zuamatan. Tandis que les non-juifs qui n'ont pas été présents au mont Sinai, leur souillure n'a pas cessé. La Mishnah nous avait dit, Chaltza b'minal sheino shelo v'chule. Si elle l'a déchaussé d'une chaussure qui ne lui appartient pas, etc., la chalitza est valable. Tanou Rabbanan en a pris dans la braïta. C'est écrit dans le verset Na'alo, sa chaussure à lui. Enli la Na'alo, Na'al shkol adam minayin. De là on apprend que la chalitza ne pourrait être faite qu'avec sa chaussure. Et d'où l'on sait qu'elle pourrait être faite aussi avec la chaussure d'autrui. Talmud Lomar, Na'al, Na'al mikol makom. C'est pour cela que le verset s'est répété ailleurs en disant le mot Na'al simplement, la chaussure, pour dire que n'importe quelle chaussure est valable. Imken matamud lomar na'alo. Alors pourquoi à un endroit le verset a précisé sa chaussure? Pour nous dire na'alo haraoulo. Il faut que la chaussure sié à sa pointure. Prat le gadol she'en yachol lahalokbo. Prat le katan she'en ochofer ovaglo. Cela vient exclure une pointure trop grande avec laquelle il ne peut pas marcher. Et cela vient aussi exclure une pointure trop petite qui ne lui recouvre pas la majorité de son pied. Ou prat le sandal hamsulaim she'en lo akev. Et cela vient aussi exclure la sandale appelée Mesoulaïm, qui qui n'a pas de semelle. Abaye avait caï comme de Rav Yosef. Abaye se trouvait devant Rav Yosef. Ataï Yevama Lachlotz. Une Yevama s'est présentée devant Rav Yosef pour faire la Khalitza. Amarle Havle Sandalcha. Rav Yosef a demandé à Abaye, donne ta sandale au Yavam, au beau-frère, pour qu'il puisse être déchaussé et recevoir la Khalitza. Yahivle Sandala de Smala. Abaye lui a donné sa sandale du pied gauche. Amarle Emour d'Amour Banan d'Yeved, le Khatrilam Yamar. Rav Yosef a dit à Abaye, c'est vrai que Rabbanan ont permis la sandale du pied gauche, mais cela n'est permis qu'a posteriori et non pas a priori. Alors pourquoi donnes-tu celle du pied gauche? Amarle, alors Abaye a répliqué à Rav Yosef, Yachi sandal chez Noshalonami, Emour d'amour Rabbanan d'Yeved le Khatrilami Amour. Alors comment tu me demandes à moi de lui donner une sandale? Ma sandale ne lui appartiendra pas. Et Rabbanan ont permis la Khalitza avec une sandale qui ne lui appartient pas qu'a posteriori et non pas a priori. Amarle, Harika Minalach, Havlev Aknile. A répondu Rav Yosef Abaye, tu m'as mal compris. Telle était mon intention. Donne-lui ta sandale en cadeau pour qu'elle lui appartienne. Et lui fera le kinyan, l'acte qu'il faut pour qu'elle entre en sa possession. La Mishnah avait dit sandal shel et. La sandale en bois est apte à la khalitza. Mantana, qui est l'auteur de cette halakha, Amar Shmuel Rabbi Meiri. Nous dit Shmuel que c'est Rabbi Meir. De tnan hakite ayotse bekav shelo divre Rabbi Meir, Rabbi Yossi Oser. Comme on a vu dans la Mishnah ailleurs, l'unijambiste pourra sortir le jour du Shabbat avec sa jambe de bois, telle est l'opinion de Rabbi Meir, tandis que Rabbi Yossi l'interdit. Donc d'après Rabbi Yossi, la chaussure n'est considérée comme telle que si elle est en cuir, comme on l'a appris du verset « Vaen aler tachash », étant donné que la jambe de bois n'est pas en cuir, donc elle n'est pas considérée comme une chaussure, et on ne pourra pas la transporter le jour du Shabbat. Tandis que d'après Rabbi Meir, la chaussure est considérée comme telle même si elle n'est pas en cuir, et donc la jambe de bois de l'unijambiste est une chaussure, et il pourra sortir avec le jour du Shabbat. Et la Mishnah qui considère la sandale en bois comme chaussure suit donc l'opinion de Rabbi Meir et non celle de Rav Yossi. A voix de Shmuel Omer, Bimchupe Orve Divrakol. Et le père de Shmuel nous dit, dans la Mishnah il s'agit d'une sandale en bois recouverte de cuir, et c'est d'après toutes les opinions qu'elle est considérée comme une chaussure. Amar Rav Papi Mishme de Rava, nous dit Rav Papi au nom de Rava, Sandal Hamusgar Lotar Lotzbo. Avant d'expliquer cela et avant de continuer, on va faire un petit résumé. Dans le Chumash Vaikra et la Parashat Tazria sont relatés là la chote concernant les personnes, les objets et les maisons atteintes de lèpre. Alors voici là la chote concernant les objets. Si une partie de l'objet est atteinte d'une plaie verte ou rouge, faudra la montrer au Kohen. Le Kohen va devoir l'enfermer durant 7 jours. Si au bout de 7 jours la plaie s'est propagée dans l'objet, ceci est une lèpre impure, il faudra brûler l'objet. Mais si la plaie est restée la même, elle n'a pas bougé, il faudra laver la plaie et à nouveau enfermer l'objet 7 jours. Et si au bout de 7 jours, la plaie est revenue comme auparavant, ceci est une plaie impure et il faudra brûler l'objet. Maintenant, la plaie qui fait qu'on va enfermer l'objet est appelée Nega Musgar, la plaie enfermée. Et la plaie qui rend l'objet impur et qui fait qu'on va brûler l'objet est appelée Nega Mukhlat, la plaie de lèpre certaine. Rappelez-vous bien de cela. Dorénavant, je ne traduis plus les termes Nega Musgar et Nega Mukhlat. Je garde ces mots-là. Nega Musgar, la plaie incertaine, et Nega Mukhlat, la plaie décisive. Alors nous dit Rav Papi au nom de Rava, Sandala Musgar, Lotar Lotzbo. La sandale enfermée en raison d'une plaie incertaine, a priori, il ne faudra pas faire la Khalitza avec. Ve'im Khalitza, Khalitza Takshera. Mais si quand même la Khalitza a été faite avec, a posteriori, elle est valable. Tandis que Sandala Mukhlat, Lotar Lotzbo. Ve'im Khalitza, Khalitza Tapsula. La sandale atteinte d'une plaie décisive, il ne faudra pas faire la Khalitza avec, et même a posteriori, si elle a été faite, elle n'a aucune valeur. Explique Rachid le raisonnement de cela. Un objet que son but est d'être brûlé est considéré comme s'il est déjà brûlé. Par conséquent, la sandale appelée incertaine, qui ne va pas être brûlée, est considérée comme une sandale entière, et donc est apte à la Khalitza. Simplement, Rabbanan l'ont interdit a priori pour ne pas la confondre avec la sandale atteinte d'une plaie décisive, qui elle n'est pas valable. Étant donné que son but est d'être brûlé, c'est comme si elle est déjà brûlée. Rav Papa Mishmé de Rava Amar, tandis que Rav Papa nous le dit au nom de Rava, Echad Sandala Musgar, Vechad Sandala Mukhlat, Lotar Lotzbo, Veim Khalsa Khalitza Takshera. Que ce soit la sandale atteinte d'une plaie incertaine ou bien d'une plaie décisive, a priori il ne faudra pas faire avec la Khalitza, mais a posteriori la Khalitza y est valable. Metive, la Gemara oppose une braïta à la première opinion, celle de Rav Papi. Avant de continuer, on va faire un autre résumé à propos de la maison atteinte de lèpre. La maison aussi peut être affectée par deux genres de plaies. Le Nega Musgar, la plaie incertaine dans laquelle on va fermer la maison durant 7 jours et la plaie décisive dans laquelle on va démolir la maison. Maintenant, dans les deux cas, la Torah nous apprend que la maison est impure. Celui qui touche ou qui pénètre dans la maison même sans la toucher sera souillé et deviendra impur. Alors, nous dit la Braïta, Baïta musgar metame mitocho. La maison fermée par suite à une plaie incertaine rendra impur celui qui la touche à son intérieur. Mouchlat mitocho ou meachorav. Tandis que la maison atteinte d'une plaie décisive rendra impur celui qui la touche à son intérieur ou bien à son extérieur. Veze veze metamin bebia. Et que ce soit celle-là ou celle-là, elles rendront impurs ceux qui pénètrent dans la maison. Veis al kadatar que de mirtat dami. Et si on va dire que l'objet destiné à être brûlé est considéré comme s'il est déjà brûlé, de même la maison destinée à être démolie est considérée comme si elle est déjà une ruine, et donc elle n'est plus une maison, alors pourquoi celui qui pénètre dans la maison atteinte d'une plaie décisive va devenir impur? En effet, le verset nous dit « Va'aba el abayit » celui qui entrera dans la maison, et celle-là n'est pas une maison, compte tenu qu'elle est destinée à être démolie. Donc elle est considérée comme si elle est déjà démolie. Répond la Gemara, Shani atam da makra, venatat et abayit. À propos de la maison, cela est différent, étant donné que le verset nous dit, et on démolira la maison. Afilu beshat netitsa karoui bayit. Même au moment où on l'a démolie, elle a été appelée maison. Venatat, et il démolira, et abayit, la maison. Tashma, viens écouter cette autre baïta. Matlit shiesh bo shalosh al shalosh. À savoir que quelconque, que ce soit un homme ou un objet atteint de lèpre, qui entre dans une maison, rend impur tout ce qui se trouve dans cette maison. Et encore à savoir qu'un habit ne peut devenir impur que s'il a au moins la mesure minimale de 3 doigts sur 3 doigts. Moins de cela, ce n'est pas un habit, c'est un bout de tissu, et il ne pourra pas devenir impur. Donc, nous dit la Braïta, Matlit Shiyeshbo Shalosh al Shalosh, un bout de tissu qui a la mesure de 3 doigts sur 3 doigts. Même qu'en volume il est moins gros que la mesure du kazaït, de l'olive, kevan shenichnas ruba le baïtaor, du moment où la majorité de ce tissu a été entré dans la maison, timataou, cet habit a rendu impur tout ce qui se trouve dans la maison. Évidemment, si l'habit a le pouvoir de rendre impur ce qui se trouve dans la maison, c'est qu'il est lui-même impur. Maïlav mourletet, de quelle impureté est-il atteint? N'est-ce pas d'une plaie de lèpre décisive? Et donc cet habit est destiné à être brûlé. Et même en admettant que le verset nous a dit que l'habit impur en entrant dans la maison rend impur tout ce qui se trouve dans la maison, on a quand même une question. S'il est considéré comme étant déjà brûlé, on ne pourra pas dire que la minorité suit la majorité. Ce qui est entré, et ce qui n'est pas entré ne l'est pas. L'habit en réalité n'en est pas un puisqu'il est brûlé. C'est vrai qu'il rend impur, mais il doit entrer entièrement dans la maison. Et cependant, on a vu dans la Braïta, Kevan Chenichnas Ruba le Baït, Timataou, du moment où la majorité de cet habit a été entrée dans la maison, il l'a rendu impur. Même que cette majorité en elle-même n'a pas 3 doigts sur 3 doigts. Répond la Gemara, Lo Musgeret. En effet, il ne s'agit pas d'un habit atteint d'une plaie décisive, mais que atteint d'une plaie incertaine. Et donc il n'est pas destiné à être brûlé. Demande la Gemara, Yahi et Masefa. Si c'est comme ça, voyons voir la fin de la Braïta. Hayuba Kamazetim. Si cet habit avait en volume la grosseur de plusieurs olives, Kevan Chenichnas Mimena Kazaït, le Baïtaor, Timataou. Du moment où la mesure d'une olive a été entrée dans la maison est devenue impure. Et de là on comprend que même si ce qui est entré dans la maison fait moins de 3 doigts sur 3 doigts, la maison est devenue impure. Iyamarad Bishlama Mouchletet, Haynoudit Kachlemet, un morceau de cadavre humain ayant la grosseur d'une olive qui entre dans une maison rend impur tout ce qui se trouve dans la maison. Et d'un verset ayant rapport à Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, on a appris que l'impureté de la plaie lépreuse décisive est comparée à celle d'un mort. Alors nous dit la Gemara, si dans la Braïta il s'agit d'une plaie décisive, on pourra comprendre à la fin de la Braïta pourquoi la grosseur d'une olive suffit, car cette impureté est comparée à l'impureté du mort. Et là il y a Mart Mousgiret, Amaï Kachlemet, mais si c'est comme la Gemara l'a dit, qu'il s'agit d'une plaie incertaine, qui n'a pas été comparée au mort, pourquoi la grosseur de l'olive rend la maison impure, même qu'il n'y a pas 3 doigts sur 3 doigts? Répond la Gemara, Ela Shani Atam Damakra Besaraf et Abeged, Afilu Beshat Refa Karouy Beged. En effet, pour comprendre la Braïta, il faudra dire qu'il s'agit de la plaie décisive, et non pas de la plaie incertaine. Donc, la fin de la Braïta est claire. Et pour revenir à la question initiale, étant donné que la destinée de l'habit est à être brûlé, et donc il est considéré comme s'il est déjà brûlé, pourquoi la minorité suit la majorité? et il suffit que la majorité des trois doigts entre dans la maison pour la rendre impure. En effet, l'habit est comme la maison. Même qu'il est destiné à être brûlé, il n'est pas considéré comme étant brûlé. Car le verset nous dit « Vesaraf et abeged » et il va brûler l'habit. De là on voit que « Afilu b'shatrefa kaoui beged » même au moment où il est brûlé, il est appelé un habit. Demande la Gemara « Velig mormine » alors pourquoi ne pas dire la même chose à propos de la sandale de la Khalitsa? Même qu'elle est destinée à être brûlée, elle n'est pas considérée comme étant déjà brûlée et donc elle est apte à la Khalitsa. Répond la Gemara « Issur mituma lo gamrinan » on n'apprend jamais les halakhot concernant les interdictions des halakhot concernant les impuretés. Et c'est vrai qu'à propos de l'impureté, il n'est pas considéré comme ayant atteint sa destinée. À propos des interdits, il est oui considéré comme tel. Amar Rava, nous dit Rava, Yilchata, voici la halakha. Echad sandal amusgar, que ce soit la sandale atteinte d'une plaie incertaine. Vechad sandal semuklat, ou bien la sandale atteinte d'une plaie décisive. Vechad sandal selavodat ukhavim, ou bien la sandale qui sert à l'idole. Lotachlot, veim chalta chalitsatakshera. A priori, il ne faudra pas faire avec eux la Khalitsa, mais a posteriori, elle est valable. Tandis que Shel Tikrovet Avodat Kochavim, la sandale qui a été offerte à l'idole.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.